franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Le Rhin.
Si l'on redresse par la pensée l'immense silhouette géométrale du fleuve,
le Rhin apparaît, portant toutes ses rivières à bras tendus, et prend la figure d'un chêne.
La sève de cet arbre superbe coule avec une fougue irrésistible de Bâle à Rotterdam, mêlant à sa rumeur l'histoire de 30 siècles et de 30 peuples, avant de se perdre dans la mer.
Nous reste-t-il quelque chose de cette gigantesque rumeur ?
Pour répondre à la question de Victor Hugo, il reste un personnage mythologique, un patriarche, à la barbe emmêlée de roseaux qui dissimule un trésor gardé au fond de l'eau par des divinités aquatiques. Il reste une puissance physique aussi qui, à Rotterdam, au bout d'un parcours de 1300 km, est définitivement fleuve européen et sans satisfait. Victor Hugo disait qu'en 30 siècles, il avait tutoyé 30 peuples. On va le suivre aujourd'hui sur un temps nettement moins long, avant que broyé entre deux nationalismes, il ne devienne frontière sacrée de la France, fleuve sacré de l'Allemagne. Voici donc le Rhin tel qu'il fut jusqu'au XVIIe siècle des Bourbons, le Rhin unificateur, couloir ouvert à l'esprit de liberté. La construction de deux grands États de part et d'autre de ses rives a ensuite cassé son histoire. Que raconte le professeur Philippe Meyer ? Bonjour Philippe Meyer.
Bonjour.
Professeur émérite de médecine, et qui a basculé depuis quelque temps dans l'histoire. Les fleuves, ce sont, Philippe Meyer, des personnages historiques.
Oui, les fleuves sont toujours historiques quand ils sont frontières. Les fleuves intérieurs le sont moins, sauf quand il y a eu un désordre majeur qui s'est produit sur leurs rives. Mais les fleuves frontières sont fascinants. Ils permettent de retracer l'histoire de deux ethnies. Les ethnies, on ne sait pas pourquoi, sont arrêtées sur les bords du fleuve alors qu'elles pouvaient très bien le traverser. Et en même temps, il y a eu tellement de souvenirs accumulés sur les rives de ces fleuves frontières, que l'on peut dire vraiment que ces fleuves-là sont des fleuves mythiques. Et le Rhin en est l'archétype.
Lucien Febvre, grand historien, maître de l'école des annales, avait consacré un livre il y a 80 ans, déjà un beau et fort livre sur le Rhin, au même sujet que vous, Philippe Meyer. Il avait fait ça parce qu'il avait une expérience de professeur à Strasbourg. Vous avez exercé la médecine à Berlin, à Paris, mais vous êtes très alsacien.
Ah oui, tout à fait. Presque physiquement, en tout cas indiscutablement de cœur. Et j'adore ce pays, mais je crois que ce pays doit être conçu comme une partie de l'ensemble du domaine rhénan. Il a toutes les qualités, peut-être aussi quelques défauts, mais en fait toutes les qualités majeures de cet énorme couloir européen où tous les gens se ressemblent, où toutes les cultures s'apparente.
Et forme une civilisation. Alors il ne faut pas segmenter le Rhin dans son parcours géographique. Vous le suivez depuis Bâle jusqu'à Rotterdam. On ne va pas faire une histoire géographique avec vous. On va faire une histoire, comment dire, réaliste et puis peut-être un peu cursive, en commençant par les Romains. 58 avant notre ère, apparaît Jules César sur le Rhin.
Oui, Jules César a été tenté par le Rhin. Il avait déjà des vues sur la Gaule. Il pensait que tenir le Rhin était une stratégie intéressante et importante. Il est remonté, entraînant derrière lui toute une population hétérogène, hétéroclite. Et il a battu le chef Alamand, qui était la tribu qui s'était installée essentiellement sur la rive droite du fleuve, mais aussi un peu sur la rive gauche, qui s'appelait Arioviste. Le lieu de bataille s'appelle Ochsenfeld. Il s'est trouvé...
Et c'est chez vous, en Alsace?
Oui, en Haute-Alsace, du côté de Mulhouse. On ne sait pas très bien d'ailleurs où. Et Jules César a battu Arjovist et a installé, a transformé l'Alsace en espèce de camp avancé, retranché, de défense contre l'Allemand.
Camp retranché, dites-vous, Philippe Meyer, mais en même temps, Rome éveille les intelligences et les talents sur ce couloir de circulation qu'elle commence à contrôler.
Oui, mais sur la rive gauche. Et toutes les présences romaines se retrouvent sur la rive gauche. Il y avait des fortins qui étaient attachés, qui vont devenir les villes rénales, Cologne, Spire, Worms, Bingen ou Strasbourg. Il y avait partout des fortifications édifiées par les Romains et qui sont restées là actives et défensives pendant pratiquement 4 siècles.
Mais à l'abri des fortifications, toute une activité, le vin, le plomb, le fer, le verre. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a plus de pluralisme et de mélange rive gauche du Rhin.
Oui, sûrement. Hein? Sûrement, la rive gauche était évidemment, n'était pas tenue par les Allemands, les Alamans, et elle était libre. Les Romains sont arrivés là, se sont mélangés. Il y avait des Celtes, évidemment, qui étaient présents avant eux. Et il y a une véritable civilisation latino-celto, pas encore germanique, mais qui va le devenir, qui s'est installée sur les bords du Rhin.
Qui va devenir germanique, oui, parce que les Germains d'Arjovist n'ont été qu'à moitié vaincus. Et nous voici maintenant en off de notre ère, donc peu de temps après la victoire de Jules César. L'empereur est tranquille dans sa capitale, Rome, lorsque...
César, pardonne-moi, mais un messager vient d'arriver de Germanie. Il semble qu'il y ait eu un grand désastre.
Toute l'armée de Catilius Varus a été massacrée dans la forêt de Teutberg.
Continuez.
Nous avions plusieurs fois eu confirmation de différents troubles provoqués par des villages. Et le commandement l'a ignoré. Et quand les Germains ont attaqué, nous étions en piètre position. Il ne reste plus rien, entre les tribus germaines et les provinces de la Gaule.
En réalité, tout repose sur une question. Les Germains contrôlent-ils les ponts?
Ils ne les ont pas encore pris. Ce sont des barbares. Ils vont se livrer au pillage. Ils finiront par s'entrebattre.
Il faudrait protéger les ponts au plus vite.
Alors je prends une cohorte et je pars demain. Avec les hommes que Postumus fait manœuvrer sur le champ de Mars, le nombre doit bien approcher celui d'une légion.
Cela suffira.
Après le désastre de Varus, les Romains contiennent encore pendant 2 siècles. Mais en effet, le patriarche emmêlé de Roseau, il ne peut pas empêcher que pas ceux qui ont besoin de passer, les Germains. Mais les Germains, quand ils franchissent les ponts, ils sont dans un processus de conquête peut-être, mais d'acculturation, dites-vous, acculturation.
Oui, oui, c'était des barbares, des païens, des barbares. Traverser le fleuve, les mettait au contact de la civilisation romaine dont on vient de parler, qui leur apportait tout de même des instruments pratiques, qui leur amenait un art de vie et de domicile qu'ils n'avaient pas du tout dans leur pays. Alors Hermann a été... il y a eu plusieurs attaques répétées tous les 10 ans, tous les 20 ans, d'Alamans qui ont traversé le Rhin à gué ou sur la glace l'hiver et qui ont en permanence assailli les fortifications des Romains dont on vient de parler. Alors l'un d'eux s'appelait Hermann. Il a rencontré la cohorte de Varus en 9 après Jésus-Christ à Teutobourg et Hermann a défoncer la cohorte contre toute attente, car elle était sans doute mieux protégée, mieux armée. Hermann a été plus malin, il les a massacrés par surprise.
Oui, mais après l'Alsace romaine, les vertus de l'Alsace, Philippe Meyer, pacifie les mœurs des Germains. Je vous ai promis une histoire cursive, on va passer aux alentours de 500, à l'époque de Clovis. Alors, Clovis, c'est un vaste domaine qui enjambe le Rhin, mais... sa base numéro un est plutôt à l'ouest, c'est de là qu'il gouverne. Est-ce qu'on parle de français et d'allemand à l'époque?
Clovis est un franc. Il appartenait à la race, à la tribu, disons, à l'ethnie des francs du nord. Il est venu avec sa tribu, il s'est enfoncé à l'intérieur de la France. Il était donc germain, parlait une sorte de dialecte germanique Il est arrivé en France et là, il a été reconnu comme un homme supérieur. Il s'est dit qu'il avait des chances de coloniser, disons le mot, la France, à condition qu'il se convertisse à la religion catholique, chrétienne, pardon, qui avait déjà pris position largement en France. Alors, je pense qu'il ne parlait pas un mot du français, du bas français de l'époque. Il parlait, en tout cas quand il est arrivé, il parlait essentiellement allemand, et le baptême, je crois que c'est Rémy qui officiait, l'évêque Rémy de Reims, a dû se passer en français, et j'imagine que Clovis n'a pas dû comprendre grand-chose.
Alors vous parlez langue, vous parlez religion. Moi, j'avance dans mon parcours chronologique sur le Rhin. Nous sommes maintenant autour de 800. C'est Charlemagne qui règne. Il règne plutôt du côté est. Sa base n'est pas à l'ouest que celle de Clovis. Mais c'est sur la religion qu'est fondée l'idée de son empire qui, lui aussi, enjambe le Rhin. Dans cette histoire cursive et réaliste, on peut s'accorder un moment surréaliste. C'est le téléfilm de Clive Donner consacré à Charlemagne.
Regarde. Regarde la carte. Reliez le Rhin au Danube. Il suffirait d'un canal d'une longueur de 2000 pas. Regarde. Un canal de 2000 pas de long permettrait de traverser mon royaume en bateau. Imagine les échanges commerciaux. Un continent sous mon contrôle. Schnarr.
Au premier coup d'œil, on imagine la chose possible. Mais sur la carte, la pluie ne tombe pas.
Nous devons creuser. Nous devons continuer. La Terre n'aura pas raison de moi.
Relier le Rhin au Danube. Il semble que le film prête à Charlemagne des intentions qui seront peut-être plus tard celles de l'Empire des Habsbourg. Sa capitale, elle était plutôt entre Rhin et Meuse qu'entre Rhin et Danube, à Aix-la-Chapelle.
Alors Charlemagne était un empereur immense, comme son empire. Il avait basé cet empire sur des relations étroites entre l'Est et l'Ouest, entre la France, disons, et pour faire court, et la Germanie. Cet empire, en plus, était adossé à Rome, à la religion chrétienne. Et Charlemagne a inauguré toute une période rhénane qui cumulait le savoir, la façon de vivre, avec une implantation chrétienne considérable. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir de Charlemagne, qui a été un rhénan évident. Il n'aimait pas beaucoup s'en aller, contrairement aux autres, aux empereurs qui vont le suivre, les Ottoniens, par exemple. Il n'aimait pas s'éloigner de la région de la Meuse, etc., d'Aix-la-Chapelle, mais il allait très souvent à Cologne, à Spire, à Worms, on le sait maintenant de façon certaine.
Le Moyen-Âge, après le traité de 843 qui partage à Verdun l'empire de Charlemagne, va être marqué sur le Rhin par un morcellement. Vous parlez des empereurs ottoniens, ils délaissent un petit peu le Rhin et le Rhin va être comme démembré en une mosaïque de gouvernements qui se hérissent de châteaux. Et voici que ces châteaux fondent le grand légendaire. On va faire un petit peu d'histoire mythologique maintenant.
À Bâle est un château, à Bâle est un manoir.
Ce vénérable château semble donner le départ à la cohorte des manoirs. Citadelle, château fort, palais ou ruine, qui, des Grisons à la mer du Nord, s'égrènent sur les bords du Rhin. De Mayence à Cologne, une trentaine de ces ruines s'élèvent sur les rives rhénanes.
Un dragon voulant dévorer une vierge chrétienne sauta du haut d'un bourg dans le Rhin à la vue du crucifix qu'elle lui tendit.
C'est du moins la légende qui l'assure. Ce bourg devint le Drachenfels, comme Roland de Sec devint le château où s'éteignit notre preux Roland, désespéré de la mort de sa bien-aimée. Avant de pénétrer dans le plat pays des Néerlandais, on voit près de Clèves un bel édifice. C'est le Schwanenburg, le château du cygne. C'est là qu'un cygne blanc amena dans une nacelle tirée par une corde d'or l'étrange Lohengrin.
On affirme aussi que Siegfried naquit tout près de là, à Xanten.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec le Rhin aujourd'hui comme thème et contre toute attente, non pas Wagner, mais un Offenbach rhénan, un peu wagnérien, en l'honneur de notre invité, Philippe Meyer, qui publie chez Perrin L'or du Rhin, histoire d'un fleuve. En l'honneur de vous, Philippe Meyer, parce que vous êtes lié à la famille d'Offenbach.
Oh, très loin, de façon très lointaine, mais avec beaucoup de fierté, bien sûr.
Alors, le Rhin, au Moyen-Âge, morcelé, segmenté politiquement, c'est un axe de la chrétienté, avec un peu partout des monastères, des lieux mystiques qui fleurissent.
Oui, le Rhin a été impérial pendant deux ou trois générations d'Ottoniens, puis ensuite, comme vous le dites, complètement coulant autour d'une population noble éclatée, qui a construit maint château fort, maint fortification, maint village même, de part et d'autre du Rhin, à la fois sur la rive gauche, sur la rive droite. L'Alsace est un pays qui est un pays dominé par des châteaux. Il en est de même en Forêt-Noire, il en est de même sur toute la longueur du Rhin et évidemment dans le Rhin impérial et dans le Rhin du Nord. Du côté de Coblenz et de
Mais les monastères.
Beaucoup de monastères. Des monastères partout. Les moines sont arrivés de partout. Ils sont arrivés d'Irlande. Ils sont arrivés de France intérieure, comme on le dit aujourd'hui en Alsace. Ils sont venus partout avec des nonnes, souvent. Et ils ont installé des abbayes. On peut citer Ottmarsheim, le collégial Saint-Thiébaud, Unterlindenkoma à Colmar, Sainte-Catherine à Colmar, Mourbach, Ribeauvillé, j'en passe. Et ces monastères étaient à la fois des lieux de culte et des lieux de rassemblement de la population qui était heureuse là de trouver protection et hospitalité.
Et des lieux aussi d'exigences mystiques passionnées. Il faut savoir que le site de l'ENA à Strasbourg était un monastère habité par des maîtres de la mystique au XIVe siècle. Ceci est dit aux énarques. S'il fallait choisir une cathédrale parmi toutes les cathédrales le long du Rhin que vous décrivez, Philippe Meyer, Strasbourg, Cologne, Bâle...
Celle que je préfère personnellement, c'est Strasbourg. Celle que j'admire, c'est Cologne, qui est impériale, qui est une dentelle de pierre hallucinante, qui s'est construite pendant des siècles, tellement c'était coûteux et difficile, qui domine le fleuve, qui rappelle toute l'histoire récente de l'Allemagne. Le pont qui mène à la gare, qui est juste au-dessous de la cathédrale, est orné des statues des grands kaisers et des grands serviteurs de l'époque allemande, c'est une chose très impressionnante, d'autant plus impressionnante que toute la région de Cologne est une région très distinguée sur le plan intellectuel et sur le plan du savoir en général.
Les universités sont nombreuses à partir du XIVe et du XVe siècle, le courant humaniste extrêmement puissant et aussi le courant réformateur. Vous dites que Luther a accompli une révolution aussi importante et aussi universelle que la Révolution française, mais elle s'est accomplie sans barbarie.
Oui, Luther en avait assez de voir des fidèles qui payaient des indulgences, comme on l'appelle, pour aller au paradis. Et il s'est insurgé contre cela. Il a voulu qu'il y ait un rapport direct entre l'homme et Dieu, supprimant ainsi en grande partie l'influence du clergé. Donc Luther, son action essentielle a été de hausser la valeur de l'homme et bien évidemment l'Alsace, toute la région rhénane a accepté de le recevoir. Elle ne s'est pas entièrement convertie au protestantisme, mais elle a accompli ce mariage très mystérieux entre les deux religions qui coexistent sur les deux rives du Rhin d'une façon tout à fait exemplaire.
À Strasbourg, il y a parfois, dans les édifices religieux, le simultanéum où sont célébrés le culte protestant et le culte catholique. Les humanistes aimaient s'instruire du savoir de ceux qu'ils rencontraient. Et conséquence presque inévitable, peut-on dire, l'invention de l'imprimerie depuis Strasbourg. Ici, un feuilleton d'Anne Lemaître pour la radio avec le personnage de Gutenberg. Les intentions humanistes sont contrebalancées par des intentions commerciales aussi.
Cela fait merveille à la boutique. Le Christ en croix, la Vierge à l'enfant, Saint-Michel terrassant le dragon, cela se vend très bien.
Une image pieuse, gravée, c'est moins cher qu'une enluminure à la main. Le bourgeois apprécie. Pour le texte, c'est moins bien. Tu le sais bien, Herman. Pour dur que soit le bois, cela s'use très vite. 10 ou 20 exemplaires, c'est tout ce qu'on peut espérer. D'abord, graver les lettres d'une page, c'est horriblement long.
Certes, graver le bois est très long. Mais graver l'acier, ce sera bien pire.
Mais les caractères serviront plusieurs fois. Je veux dire que le même caractère, une fois gravé dans l'acier, on pourra l'employer sur une autre page. Tu composes la page, Herman, avec les caractères que tu as gravés. Tu encres, tu mets sous la presse, tu tires une épreuve. Et s'il y a une faute, tu changes le caractère et tu tires à nouveau jusqu'à ce que ce soit parfait.
Et on n'y a pas pensé plus tôt ?
Quand j'étais à Strasbourg, j'en ai parlé avec des collègues.
Et les autres n'ont rien fait que par moi ?
D'autres s'y sont essayés. Presque toujours des orfèvres, comme moi. Les orfèvres savent travailler le métal en finesse. Il ne s'agit pas ici de ferrer des chevaux.
Il faut imaginer, Philippe Meillat, des imprimeurs qui ensuite partent du Rhin sur toutes les routes.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que Gutenberg n'était pas originaire de Strasbourg. Il est venu secondairement à Strasbourg à partir de Mayence. Et ça montre bien la collaboration qui était installée immédiatement au Moyen-Âge et à la Renaissance plutôt, dans le cas précis, il n'y avait plus de frontières. Il y avait un domaine rhénan qui était ouvert à tout. Et l'université actuelle, les universités ont éclos partout, à Cologne, à Mayence, à Strasbourg, à Bâle, à Fribourg, en Brisgau. Et toutes ces universités maintenant se regroupent de façon très intéressante dans un domaine universitaire rhénan qui est la démonstration que l'entente peut se faire facilement d'un pays à l'autre.
Oui, ça vous dites ça, parce que vous parlez de l'après-guerre, de l'après-deuxième guerre mondiale. On a laissé nos imprimeurs sur les routes au XVIe siècle, mais voici qu'au XVIIe arrivent les Bourbons de France, qui ne conçoivent pas que la France puisse s'arrêter seulement au Rhône et à la Meuse. Louis XIV en particulier va se servir de toutes les circonstances, de la guerre de Hollande dans les années 1670, de la guerre de la Ligue d'Augsbourg Ensuite, il va utiliser tour à tour les plus grands chefs qu'il met même en concurrence.
Vous n'avez pas encore le commandement, prince. Le roi balance entre Turenne et vous.
Qui va là ? Service du roi ! Nous apportons des nouvelles de Hollande !
Votre Majesté, les ambassadeurs de Hollande sont arrivés.
Eh bien, ils arrivent au bon moment.
Votre Majesté ?
Guillaume d'Orange refuse d'épouser la fille de la duchesse de Lavallière.
Ils nous ont dit, en termes galants, que dans sa famille, on épouse les filles légitimes des souverains. Pas leur bâtarde.
Ah oui.
Condé, quelle est votre opinion sur la guerre ?
Si vous le permettez, je le ferai se noyer en s'abordant l'une de ces digues, Majesté. La chance semble être avec nous. Une guerre avec la Hollande. Turenne intrigue pour que Colbert l'appuie. Et le roi pencherait pour moi.
Besançon, Lille, Strasbourg, mes plus beaux titres de gloire. Et les vôtres, monsieur de Vauban. J'ai refusé au pape, il y a quelques mois, d'engager le moindre régiment de France dans sa croisade contre les Turcs. Vous avez bien voulu m'en approuver hautement, je crois. Monsieur le contrôleur des décisions royales.
Assurément, sire. Nos frontières d'abord.
Fort bien. Cela est fait. Nous tenons Strasbourg. Et nous le garderons.
Votre Hors du Rhin, votre livre sur le Rhin chez Perrin Philippe Meyer, est extrêmement sévère sur Louis XIV, dont les Allemands aujourd'hui, après la reconstruction européenne, disent poliment qu'il a laissé quelques traces.
Il a laissé à Heidelberg une magnifique ruine qui domine la ville, le château de Heidelberg, et qui malheureusement se trouve là, se dresse sur un sommet devant des étudiants du monde entier qui viennent étudier à Heidelberg aujourd'hui. Il a rasé le Palatinat. On oublie volontiers ces épisodes dramatiques en disant qu'il a simplement annexé l'Allemagne, l'Alsace à la France en 1778. Il faut aussi se rappeler ce mauvais côté que nos alliés, nos amis de l'autre côté du Rhin ne manquent pas une occasion pour rappeler.
Ben oui, parce que le saccage des tombeaux impériaux, bien avant le saccage des tombeaux des Bourbons à Saint-Denis, c'était à Spire en 1693. Le roi Louis XIV a cassé brutalement l'histoire du Rhin.
Louis XIV a cassé l'histoire du Rhin en envahissant un pays germanique et en mettant là, à mon avis, les germes d'un futur malheureux, alors que le Rhin coulait d'une façon paisible, relativement paisible, en tout cas dans un espace unifié linguistique et ethnique. Là, il a brusquement fait basculer Strasbourg, ville allemande, du côté de la France. On s'en est remis depuis, mais ça a été, à mon avis, un geste lourd de conséquences pendant plusieurs siècles.
Où se sont déployées, dites-vous, les turpitudes du nationalisme. Comme quoi on peut faire une histoire peignée par l'idée de paix, Philippe Meyer, et en même temps une histoire polémique. Je vous remercie, votre livre vient d'être publié aux éditions Perrin. L'émission est préparée par Franck Livard, Meryl Moneghetti, Frédéric Martin, réalisée par Jacques Sigal avec Pascal Baldassari et Cédric Lalanne. Lundi, la tonalité de ces jours-ci étant assez allemande, nous parlons de la République de Weimar et de ses débuts, une utopie démocratique.